Ton regard, Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort, on regarde en premier lieu un prêtre missionnaire, ayant un zèle extraordinaire pour faire connaître l'amour de Jésus crucifié, pour faire connaître la sagesse de Jésus crucifié. C'est cela qui a saisi d'une manière très extraordinaire son âme et son âme de chrétien, de prêtre. Il a été pris par cela en premier lieu. Et il s'étonnera du reste lui-même que ce n'est que plus tard qu'il aura compris que pour entrer plus profondément dans le mystère de Jésus et de Jésus crucifié, la sagesse de Dieu a voulu que ce soit par une médiation gratuite de surabondance, celle de Marie. Et progressivement, Saint-Louis-Marie entrera de plus en plus dans cette réflexion théologique. Et au-delà de la réflexion théologique, dans une expérience intime avec Marie, pour saisir la place que Dieu, dans sa sagesse, a voulu lui donner. Il aime de montrer comment le mystère de la maternité divine de Marie auprès de Jésus, ce mystère si extraordinaire que Dieu veut se donner aux hommes en se servant d'une femme, d'une mère, pour que le mystère d'incarnation puisse, en quelque sorte, avoir toute sa dimension pour nous. Que si Dieu a voulu se servir de Marie pour réaliser le mystère de l'incarnation, c'est bien l'indication pour nous qu'il veut que ce soit aussi par Marie que Jésus se donne à nous. Et que ce soit par Marie que nous puissions remonter jusqu'à Jésus. Il y a comme un ordre de sagesse divine. Si Dieu se sert de Marie, il nous montre bien que nous devons aussi nous servir de Marie. Et c'est peut-être la première chose que nous devons regarder dans ce saint prédicateur, si proche du peuple de Dieu, si aimant du peuple de Dieu, parlant un langage très simple, surtout quand il parle de Marie, il a découvert que la médiation de Marie devait se comprendre à travers celle de Jésus. Et que c'était toujours Jésus qu'on devait regarder en premier lieu. Et qu'en regardant Jésus, nécessairement, on découvre la place de Marie. Il le dit avec beaucoup de force. Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Il emploie le mot « dévotion » dans le sens qui n'est pas tout à fait ce que nous employons, dévotion, est pris d'une façon ici très large, notre attitude vis-à-vis de Dieu, ce qui implique toute une attitude de foi en premier lieu, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement, elle serait fausse et trompeuse. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes les choses. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu, de perfection, parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier, notre unique tout en toute chose qui doit nous suffire. Il n'a point été donné d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d'autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre gloire que Jésus-Christ. Tout édifice qui n'est pas posé sur cette pierre ferme et fondé sur le sable mouvant et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui n'est pas uni à lui, comme une branche au cep de la vigne, tombera et séchera, et ne sera propre qu'à être jeté au feu. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de damnation à craindre, ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des enfers, ni aucune autre créature ne nous peut nuire, parce qu'elle ne peut nous séparer de la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est très net. C'est cette affirmation profonde de sa foi qui montre la très grande rectitude de cet apôtre. C'est la sagesse du Christ crucifié qui pour lui est l'unique sagesse. Et il faut tout le temps revenir à cette sagesse divine. Mais en même temps, et c'est cela qu'il faut bien comprendre, mais en même temps, il faut comprendre tout l'amour de tendresse extraordinaire que cet apôtre a pour Marie. Il l'a découvert. Il est étonné qu'on en parle si peu. Il le dira tout de suite. Si donc nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Donc, notre foi en Marie n'a pas d'autre finalité. Notre foi en Marie et dans sa maternité sur nous n'a pas d'autre finalité que de nous permettre d'avoir une foi plus grande dans le Christ. Ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-Christ. Marie sera ce moyen aisé et assuré. Si la dévotion de la très sainte Vierge éloignée de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme une illusion du diable. Il dit ça avec toute sa force. Mais tant s'en faut qu'au contraire, comme j'ai déjà fait voir et ferai voir encore ci-après, cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement et l'aimer tendrement et le servir fidèlement. Pour lui, c'est capital. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Et puisque le Père, dans sa sagesse, a voulu unir d'une manière si forte Jésus, le Verbe incarné, à Marie, nous devons, nous aussi, en scrutant la sagesse divine du Père, découvrir ce lien entre Marie et Jésus. Il nous dit ceci: « Je me tourne ici un moment vers vous, ô mon aimable Jésus, pour me plaindre amoureusement à votre divine majesté de ce que la plupart des chrétiens, même des plus savants, ne savent pas la liaison nécessaire qui est entre vous et votre Sainte Mère. Vous êtes Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous, et ne peut être sans vous. Autrement, elle cesserait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle, plus parfaitement qu'en tous les anges et les bienheureux. Ah, si on connaissait la gloire et l'amour que vous recevez en cette admirable créature, on aurait de vous et d'elle bien d'autres sentiments qu'on n'a pas. Elle vous est si intimement unie qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu. Je dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de vous que la divine Marie, parce qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement que toutes vos autres créatures ensemble. C'est très beau, cette intuition mystique, contemplative, de découvrir ce lien que le Père a voulu entre Jésus et Marie. Ce lien est si fort, si intime, que c'est impensable pour quelqu'un qui a la foi comme Saint-Louis-Marie Grignon, quelqu'un qui a la foi de vouloir tant soit peu mettre une rivalité, une opposition entre les deux. Et on sent très bien combien au fond de son cœur, tout l'amour qu'il a pour Jésus, et cet amour est un amour d'enfant, de petit enfant, et en même temps un amour d'homme. Il unit les deux, parce qu'il maintient toujours, c'est peut-être grâce à la Vierge Marie, cette extraordinaire tendresse, et en même temps cette très grande force. C'est un lutteur, comme prédicateur. C'est un prédicateur de foule, et en même temps, c'est un prédicateur qui gardera cette extraordinaire tendresse pour Jésus. On sent la fureur de cet apôtre ayant découvert ce secret si grand, si profond, si intime, du cœur de Jésus et du cœur de Marie, comme étant inséparable dans le cœur de Jésus, ce qu'il y a de plus secret, après l'amour qu'il a pour le Père, ou plus exactement dans l'amour qu'il a pour le Père, c'est cet amour pour Marie. Au plus intime du cœur de Jésus, il y a cet amour pour sa mère. Et au plus intime du cœur de Marie, c'est l'amour pour Jésus. Il y a une sorte d'identité mystérieuse d'amour. Père, qu'il soit un comme nous. Cette unité que Jésus souhaite dans sa grande prière de fils bien-aimé, qu'il souhaite entre eux, tous les chrétiens. Cette unité, elle est réalisée en premier lieu entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Le cœur blessé de Jésus et le cœur blessé de Marie dans son mystère de compassion. C'est cette unité qui, je crois, est le grand secret de toute la vie de Saint Louis-Marie Grignon-Montfort. Pour mieux nous faire comprendre ce secret qui est toute sa vie. C'est pour ça, du reste, qu'il appellera le secret de Marie. Il nous fait comprendre que nous devons nous tendre à avoir vis-à-vis de Marie un amour semblable que celui de Jésus pour Marie. Mais en même temps, il sait très bien que notre situation vis-à-vis de Marie est tout autre. Et c'est pour ça qu'il aimera d'employer cette expression qui, dans notre langage d'aujourd'hui, peut nous choquer et qui pourtant est si belle, le saint esclavage. Nous devons être liés à Marie dans cette intimité de ceux qui savent qu'ils reçoivent tout d'elle et que c'est surtout par elle qu'ils sont libérés de l'esclavage du péché. Et Saint Louis-Marie Grignon-Montfort expliquera lui-même, il y a trois sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte et un esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière, c'est-à-dire totalement dépendantes. Les démons et les damnés en second, c'est un esclavage de contrainte. Les justes et les saints le sont en la troisième manière. L'esclavage de volonté est le plus parfait, le plus glorieux à Dieu, qui regarde le cœur et qui demande le cœur et qui s'appelle le Dieu du cœur ou de la volonté amoureuse, parce que par cet esclavage on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Cet esclavage qui traduit le lien d'amour et dans cette dépendance à l'égard de Dieu Père. Ce lien d'amour, d'adoration, qui reconnaît la totale dépendance à l'égard de Dieu. Et il montrera pourquoi il emploie exprès le terme d'esclavage. Il aime de montrer la totale différence qui existe entre un serviteur et un esclave. Le serviteur ne donne pas tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il possède, et tout ce qu'il peut acquérir par autrui ou par soi-même à son maître. Mais l'esclave se donne tout entier. Tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître, sans aucune exception. Et ce don se fait dans un choix. Donc vous voyez, c'est pas du tout ce que nous entendons par esclave. C'est le don de tout nous-mêmes. J'allais dire, ce sont les vœux de religion, c'est l'esprit des vœux. C'est l'esprit des vœux, faut dire. L'esprit des vœux qui nous relie à Dieu d'une manière tellement radicale que nous n'avons plus rien à nous. Il précisera encore, un serviteur peut quitter son maître quand il voudra, mais l'esclave n'est pas en droit de quitter son maître quand il le voudra, parce qu'il a choisi d'une manière radicale. Je dirais, celui qui vit l'esprit des vœux de religion ne peut pas quitter son maître quand il le voudra. Il a promis de rester fidèle. Il précise encore, le maître du serviteur n'a sur lui aucun droit de vie et de mort, en sorte que s'il le tuait comme une de ses bêtes de charge, il commettrait un homicide injuste. Et le maître de l'esclave a, par les lois, droit de vie et de mort sur lui, en sorte qu'il peut le vendre à qui il le voudra, ou le tuer, comme sans comparaison, il ferait de son cheval. Comprenons bien là encore, hein, on pourrait se scandaliser. Et c'est très beau, un droit de vie et de mort, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt. C'est cette mort volontaire à l'égard de Jésus pour être vraiment son esclave, en comprenant que Jésus a tous les droits et qu'il veut tout. Il précise encore, le serviteur n'est que pour un temps au service de son maître. L'esclave l'est pour toujours. Ce que Saint Louis-Marie Grignon-Montfort veut nous faire comprendre, c'est justement ce lien, j'allais dire, substantiel, que la charité peut réaliser dans un choix libre à l'égard de Marie. On veut lui appartenir parce que Marie est notre mère. Et on veut lui appartenir d'une manière radicale, de la manière la plus radicale qui soit. Il n'y a rien parmi les hommes qui nous fasse plus appartenir à un autre que l'esclavage. Voilà ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il prend ce terme. Alors évidemment, encore une fois, ça marque très fort une époque. La fin du XVIIe, le début du XVIIIe, ça marque cette époque, on voit très bien. Comprenons, faisons l'herméneutique de cette expression et saisissons ce que Saint Louis-Marie Grignon-Montfort veut nous indiquer par là. Il n'y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous fasse plus absolument appartenir à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère que l'esclavage de volonté selon l'exemple de Jésus-Christ même qui a pris la forme d'esclave pour notre amour. Formam servi accipiens. Et de la Vierge Marie qui s'est dite la servante et l'esclave du Seigneur. L'apôtre s'appelle par honneur Servus Christi. Les chrétiens sont appelés plusieurs fois dans l'Écriture Servi Christi. Lequel mot de Servus, selon la remarque véritable qu'a faite un grand homme, ne signifiait autrefois un esclave, parce qu'il n'y avait point encore de serviteurs comme ceux d'aujourd'hui, des serviteurs à gage. Les maîtres n'étant servis que par des esclaves ou affranchis. Ce que le catéchisme du Saint Concile de Trente pour ne laisser aucun doute que nous soyons esclaves du Christ, exprime par un terme qui n'est pas moins équivoque en nous appelant Mancipia Christi, esclaves de Jésus-Christ. Comprenons bien ce grand secret de ce lien qui fait appel à ce qu'il y a de plus intime à nous, de plus intime en nous, pour nous ouvrir à l'action directe de l'Esprit-Saint, à l'action directe de Marie. Nous devons être entièrement saisis et pris par le Christ pour n'être qu'à lui. Et nous devons, de la même manière, être entièrement pris et saisis par Marie pour n'être qu'à elle. Le serviteur, l'esclave, qui toujours a les yeux fixés sur son maître et qui ne veut accomplir que ce que son maître lui demande d'accomplir. C'est bien cela que Saint Louis-Marie Grignon-Fort comprendra quand il exposera le secret de Marie, parce qu'il veut justement qu'il y ait cette intimité la plus grande entre notre cœur et le cœur de Marie. Qu'il y ait un don total de choix libre. On est lié à elle. Et on est lié à elle pour toute sa vie. C'est une promesse qui, même peut-être dans son esprit, va plus loin que les vœux, mais qui va dans le même sens que les vœux des conseils évangéliques, l'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'obéissance, l'esprit de virginité. C'est Marie qui met en nous cet esprit. Il faut lui appartenir complètement pour être comme elle dans cet esprit de virginité. Elle est la Vierge par excellence. L'esprit de pauvreté, Marie vit cette pauvreté, elle l'a vécue, étant l'esclave de Jésus, petite servante, et vivant vraiment dans cet esclavage d'amour, dans une pauvreté la plus radicale qui soit, la pauvreté d'une mère, et dans une obéissance absolue. Marie a vécu dans cet esprit d'obéissance jusqu'à la croix et après avec Jean. C'est encore dans un esprit d'obéissance qu'elle nous est donnée. C'est pour accomplir pleinement la volonté de Jésus qu'elle nous est donnée. Esclave de Jésus, elle nous est totalement donnée. Comme elle est l'esclave de Jésus, elle devient notre esclave. On peut dire ça. Parce que la mère, c'est la servante par excellente. C'est celle qui va jusqu'au bout du service. C'est un service qu'on ne peut pas changer. Et donc on peut dire, comme le Père a voulu, qu'elle soit la petite servante, étant mère du Fils bien-aimé. Le Fils veut qu'elle soit notre mère, petite servante de chacun d'entre nous. Alors on commence à comprendre pourquoi Grignon-Montfort insiste tellement sur ce saint esclavage. Il faut, pour que le mystère de Marie pénètre pleinement dans notre vie, dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre volonté, pour que l'esprit de Marie pénètre pleinement, pour que sa maternité puisse se réaliser pleinement et totalement en nous, comme elle-même, esclave de Jésus, se fait esclave de tous les membres de Jésus, totalement à notre service. Il faut que nous-mêmes nous soyons totalement à son service. Alors il pourrait y avoir cet amour de réciprocité dans la petitesse, dans la pauvreté, dans l'obéissance, dans la virginité. C'est Marie qui prendra possession de tout nous-mêmes. Je vous lis ce texte de Saint Louis-Marie Grignon-Montfort. Cette dévotion, fidèlement pratiquée, produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie en elle, car l'âme de Marie, pour ainsi dire, devient son âme. Or, quand par une grâce ineffable, mais véritable, la divine Marie est reine dans une âme, quelle merveille n'y fit-elle pas ? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret, à l'insu même de l'âme, qui, par la connaissance qu'elle en aurait, détruirait la beauté de ses ouvrages. Comme elle est partout la Vierge féconde, elle porte dans tout l'intérieur, où elle est la pureté de cœur et de corps, la pureté dans les intentions et les desseins, la fécondité en bonne œuvre. Ne croyez pas, chère âme, que Marie, la plus féconde de toutes les pures créatures, et qui est allée jusqu'au point de produire un Dieu, demeure oisive dans une âme fidèle. Elle la fera vivre sans cesse à Jésus-Christ, et Jésus-Christ en elle. Si Jésus-Christ est aussi bien le fruit de Marie, en chaque âme en particulier, que pour tout le monde en général, c'est particulièrement dans l'âme où elle habite que Jésus-Christ est son fruit et son chef-d'œuvre. Enfin, Marie devient toute chose à cette âme auprès de Jésus-Christ. Elle éclaire son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur par son humilité. Elle l'élargit et l'embrase par sa charité, elle le purifie par sa pureté, elle l'ennoblit et l'agrandit par sa maternité. Mais à quoi est-ce que je m'arrête ? Il n'y a que l'expérience qui apprenne ces merveilles de Marie, merveilles incroyables. Ô gens savants et orgueilleux, et même au commun des dévots et dévotes. Il exprime bien là ce secret, l'œuvre de l'Esprit Saint au plus intime de l'âme. Je crois qu'on peut dire, si on entre pleinement dans la doctrine de Saint Louis-Marie Grignon-Montfort, que comme l'Esprit Saint, par le don de sagesse, nous fait découvrir le Père. Il nous fait dire Abba Pater. Et en nous faisant dire Abba Pater, il nous lie au Père dans une filiation d'amour. On devient le bien-aimé du Père quand on dit Père, sous l'action de l'Esprit Saint. Et sous l'action de l'Esprit Saint et du don de sagesse, on découvre dans cette paternité du Père, cette paternité de Jésus, et on devient le bien-aimé pour le cœur de Jésus, à la suite de Jean. Et l'Esprit Saint nous fait découvrir, à l'intérieur de la paternité de Jésus, cette maternité de Marie. Et nous fait dire « Mère ». Et c'est en disant « Mère » que notre âme devient « le petit enfant bien-aimé de Marie. Et c'est ce lien d'amour qui fait que Marie vit au plus intime de l'âme de celui, de celle qu'elle a choisie pour être mère et reine, de celui qu'elle a choisi pour être son petit serviteur, son esclave d'amour. Alors Marie peut s'installer dans l'âme. Il n'y a plus aucun obstacle, plus aucune limite. C'est la plénitude d'amour du cœur de Marie pour Jésus qui s'étend dans le cœur de celle, de celui qu'elle a choisi, qu'elle aime, dans le cœur de celle, de celui qui a choisi Marie et qui veut se livrer à elle. C'est sa plénitude d'amour qui saisit le cœur et l'âme de celui, de celle qui se donne à Marie. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intime dans le mystère de notre grâce chrétienne qui s'épanouit, qui permet cette expérience d'amour, qui permet d'être entièrement donné et aller jusqu'au bout de ce don. Comprenons que Saint Louis Marie Grignon Montfort nous fait comprendre que ce lien avec Marie doit animer les véritables apôtres, les apôtres des derniers temps. Et ceci aussi, c'est une de ces affirmations prophétiques de Saint Louis Marie Grignon Montfort qui me semble tellement forte. Donc, parlant de ceux qui se sont donnés entièrement à Marie et qui sont prêtres et apôtres, Saint Louis Marie Grignon Montfort pose la question, mais qui seront ces serviteurs, ces esclaves, ces enfants de Marie, ces apôtres de la Vierge Marie? Et alors il précise, ce seront un feu brûlant, ministre du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront sicut sagitte in manu potentis, des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu des grandes tribulations et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches, aux orgueilleux mondains. Ce seront des nues tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit, qui sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, ils perceront d'outre en outre pour la vie ou pour la mort avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est, sans soin au milieu des autres prêtres, ecclésiastiques et clercs, et cependant auront les ailes argentées de la colombe, pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera. Ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, de son humilité, de son mépris du monde et de sa charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité selon le Saint-Évangile et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire exception de personne, sans épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et la mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. C'est comme ça qu'il décrit les apôtres des derniers temps. Il faut être lié à Marie comme des esclaves. Il faut pénétrer au plus intime de son cœur comme des enfants. Il faut par elle aimer follement Jésus pour devenir ceux qui iront là où l'Esprit Saint désire qu'ils se rendent. Ce n'est pas eux qui auront des plans d'avance. Ce n'est pas eux qui choisiront leur apostolat. Ils seront des esclaves dans les mains de Marie, des esclaves dans les mains de la sagesse de Dieu, n'ayant d'autres désirs que d'accomplir pleinement cette volonté crucifiante et aimante de Jésus crucifié. C'est cette grande spiritualité de Saint Louis-Marie Grignonfort, si simple, si évangélique, si joannique, puisque tout se ramène à cette alliance que Jésus a réalisée quand il était crucifié. Femme, voilà ton fils, et à Jean, voilà ta mère. Et à partir de ce moment, Jean l'a pris chez lui, au plus intime de son âme, il l'a pris chez lui. Et Saint Louis, Marie Grignonfort, prend Marie chez lui, au plus intime de son âme, et il laisse Marie prendre tout ce qu'il a, être entièrement dépouillé par elle, pour que ce soit l'amour de Marie pour Jésus qui s'empare de son cœur, que ce soit l'amour de Marie pour le Père qui s'empare de son cœur, que ce soit l'amour de Marie pour Jean et pour tous ceux que Dieu met sur sa route, qui s'emparent de son cœur. Cette grande spiritualité joannique, cette grande spiritualité de Saint Louis Marie Grignonfort, on la retrouve chez un apôtre aussi merveilleux que Saint Maximilien Kolb. Et je crois qu'on peut dire, on la retrouve aujourd'hui au plus intime du cœur de notre pape. Ce sont ces grands apôtres des derniers temps. Ce sont ces grands amis de Marie qui ont tout donné à Marie et qui reçoivent tout d'elle. Et cela explique cette efficacité prodigieuse de leur vie apostolique. Ce n'est pas des méthodes humaines, ce n'est pas des trucs humains qui donnent cette efficacité, c'est l'Esprit Saint qui se sert de Marie pour aller jusqu'au bout de sa communication d'amour. C'est l'Esprit Saint qui, passant par Marie, permet d'être plus proche de notre cœur et de pouvoir agir avec cette force et cette suavité. C'est bien ce qui caractérise ces apôtres des derniers temps. C'est leur force. Ils sont des témoins. Saint Maximilien Kolb a montré sa force. Il est martyr de la charité fraternelle. Il donc va jusqu'au bout de cette exigence du martyr. Marie, la reine des martyrs, fait des témoins martyrs. Et notre pape, pape martyr, lui aussi, va jusqu'au bout de ses forces, donnant tout, ne gardant rien pour lui. Pour être l'apôtre du cœur brûlant de Marie, pour être le martyr qui témoigne de l'absolu de l'amour divin. C'est bien cette grande spiritualité qui rejoint ou qui nous fait comprendre ce qui nous est montré dans l'Apocalypse, dans ce chapitre 11, où on parle des deux témoins. Et ces témoins qui rappellent ces deux témoins de la première alliance, Élie et Moïse. Je crois que nous pouvons découvrir dans ces deux témoins dont parle l'Apocalypse, ces apôtres des derniers temps, entièrement pris par Marie, entièrement pris par l'Eucharistie, par le cœur eucharistique de Jésus, saisi par cette présence mystique intérieure de Marie, par sa maternité, elle nous engendre à la vie divine. Et si elle nous engendre à la vie divine, elle est présente au plus intime de notre vie divine. Et ces témoins du cœur blessé de l'agneau qui nous donnent le sens du mystère de l'Eucharistie. Le rôle de Marie, c'est bien de nous conduire à l'Eucharistie, de nous y préparer et de nous faire aimer l'Eucharistie et de nous en faire vivre. C'est, je crois, son rôle tout à fait particulier de faire découvrir la blessure du cœur de Jésus, nous la donner pour que notre cœur soit changé